Alors? Alors? Ton père, qui voit dans le secret, saura te le rendre. Lorsque vous priez, n'imitez pas les faux dévots qui aiment à prier dans les synagogues et dans les rues en remuant beaucoup d'air autour d'eux afin que tous se rendent compte de leur religion. Quand vous voudrez prier, entrez dans votre chambre et fermez-en la porte. Dieu vous écoutera dans le secret. Ce n'est pas l'amas de paroles qui fait la prière vraie. Votre prière sera désormais celle-ci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En effet, si vous savez pardonner, Dieu fera de même avec vous. Dans le cas contraire, attendez-vous à être traité comme vous traitez votre prochain. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugé. Vous serez mesuré à la mesure même que vous aurez adoptée pour les autres. Pourquoi regarder la paille qui est dans l'œil du voisin quand une poutre se trouve dans le nôtre? Piètre amour qui nous fait dire « Viens donc ici que je te sorte cette paille ». Enlève d'abord la poutre qui encombre ton regard et tu t'occuperas ensuite de la paille qui, selon toi, empêche ton frère de voir.
À l'écoute de ces sentences sans appel, beaucoup s'étaient levés en grommelant. On ne touche pas impunément au fond de l'âme humaine sans y susciter des mouvements divers. Jésus allait quitter la cour du temple quand se présenta à lui, tout sourire dehors, l'un des pharisiens présents. Le notable le pria de bien vouloir accepter une invitation à dîner. Il avait tant de précision à lui demander sur sa doctrine. Jésus accepta. Et le soir venu, il se retrouva avec ses disciples dans une des plus belles demeures de la ville, devant un choix incomparable de nourritures exquises et de boissons recherchées. Le pharisien avait voulu manifestement faire les choses en grand. Les questions avaient à peine commencé à fuser qu'un silence gêné accueillit l'entrée inopinée d'une femme, violemment maquillée, qui, sans regarder personne que Jésus, qu'elle semblait connaître, se jeta à ses pieds et commença à les baigner de ses larmes. L'atmosphère était devenue pesante. Beaucoup des invités présents avaient identifié la femme bien connue de par la ville pour sa vie de prostitution. Toujours sans rien dire, elle venait de briser le col d'un vase rempli d'huile parfumée, dont l'odeur subtile s'exhalait et remplissait la salle. Jésus ne semblait ni gêné ni scandalisé. Ne savait-il donc pas à qui il avait affaire? Qu'était-ce donc que ce prophète, incapable d'identifier une femme vivant dans le péché?
Simon, je voudrais te raconter quelque chose.
Mais Seigneur, je t'en prie.
Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme aucun des deux n'avait de quoi le rembourser, il décida de faire grâce aux deux. À ton avis, quel est celui qu'il aimera davantage?
La réponse n'est pas difficile. Inévitablement, celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme.
Bravo, tu as bien jugé. Cette femme à mes pieds, tu la vois, n'est-ce pas? Je suis entré dans ta maison et, sans doute oublie de ta part, tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds selon la coutume. Elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Quand tu m'as accueilli, tu ne m'as pas donné le baiser de la paix. Mais cette femme que vous méprisez n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas parfumé la tête comme cela se fait si souvent en Israël. Elle a couvert mes pieds de parfum. Alors, Simon, je te le dis. Oui, je sais qui elle est. Oui, je sais que ses péchés sont innombrables. Mais ils lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui il est peu pardonné ne donne que peu d'amour. Femme, ta foi t'a sauvée.
Les assistants, interloqués, se souvinrent que, quelques jours plus tôt, alors qu'on essayait de lui tendre un piège de doctrine au sujet d'une femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus avait employé le langage de l'amour et du pardon et renvoyé chacun à la conscience de ses propres péchés. Nul ne savait comment réagir devant une telle assurance. Mais, dans l'esprit de nombreux notables de Jérusalem, une certitude croissait. Face aux Nazaréens, un jour ou l'autre, il faudrait choisir.
Dis maman, tu nous avais promis de nous expliquer la messe.
Pas tout de suite, car si je t'explique la messe avec mes mots à moi, tu trouveras que c'est bien trop compliqué et mystérieux. Mais si patiemment nous continuons à suivre Jésus, comme l'ont fait les apôtres, c'est Jésus lui-même qui nous expliquera. La messe restera bien pour nous un mystère, mais un mystère éclairé par Jésus. Nous comprendrons au moins ce qu'il a de magnifique et d'irremplaçable. C'est pourquoi nous allons encore vivre avec Jésus pendant les 6 derniers mois de sa vie parmi les hommes.
C'est long, 6 mois ?
Oh, pas tellement, tu sais. Imagine à peu près la moitié d'une année d'école, passée avec ta maîtresse que tu aimes tant. Au début de l'année, tu te dis, ça va être long. Mais quand la fin approche, tu penses, déjà, il va falloir se séparer ? Vous souvenez-vous de la vie cachée de Jésus ? Pendant 30 ans, il ne s'était presque rien passé. Et voici qu'à la fin de sa vie publique, les événements vont se précipiter. Et chaque événement est si important que nous en gardons toujours le souvenir précis. Tous les ans, nous les célébrons. Ce sont nos fêtes chrétiennes.
C'est comme Noël ou l'Épiphanie.
Et comme l'Annonciation que nous avions naturellement célébrée avant Noël. Aujourd'hui, nous vivrons avec Jésus et ses apôtres, les rameaux, Pâques et d'autres journées tout aussi importantes. Donc, Jésus continue à guérir et à enseigner, à expliquer et à prédire.
C'est quoi prédire ?
Prédire ? C'est exactement dire avant, annoncer si tu veux des choses qui se passeront plus tard.
Comme les prophètes alors?
Oui, mais Jésus était généralement plus précis que les prophètes. Et il annonçait avec exactitude ce qui allait lui arriver à lui-même. Par exemple, il dit un jour à ses apôtres,
« Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. »
Mais ils ne comprenaient pas ces paroles et craignaient de l'interroger.
Ils avaient donc peur de Jésus ?
Oh non, pas de Jésus, bien sûr. Ils avaient peur parce qu'ils entrevoyaient seulement qu'il allait se passer des choses terribles. Vous savez bien, aucun de nous, grands ou petits, nous n'aimons penser à la mort de ceux que nous aimons. Et puis, les amis de Jésus voyaient bien qu'il avait des ennemis. Ils se souciaient parce qu'ils sentaient que Jésus énervait de plus en plus de gens. Mais c'est surtout parce que de plus en plus souvent et de plus en plus nettement, Jésus affirmait qu'il était le Fils de Dieu, que Dieu lui avait donné tous ses pouvoirs en somme. Alors, les anciens prêtres, les scribes et les pharisiens étaient comme jaloux. Ils ne voulaient pas le croire. Ils le traitaient de menteur. Déjà, à Capharnaüm, une petite ville au nord du lac de Tibériade,
on amène à Jésus un paralytique porté par quatre hommes. Ne pouvant le lui présenter à cause de la foule, ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Et par l'ouverture, ils descendirent le grabat où était le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont remis. » Or, il y avait là assis quelques scribes qui raisonnèrent ainsi dans leur cœur. Comment peut-il parler de la sorte? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul?
Il blasphème, il injurie Dieu. Crime impardonnable qui méritait la mort.
Tout de même, moi je les comprends un peu. Ils voulaient sûrement que Jésus leur donne des preuves. C'est trop facile de dire, tes péchés, c'est comme si tu n'en avais pas fait.
Jésus savait bien ce qu'ils pensaient. Alors il leur a dit comme il te le dit à toi.
Lequel est le plus facile? De dire à ce paralytique, tes péchés te sont remis? Ou de lui dire, lève-toi et marche.
Et sans attendre leur réponse, pour leur montrer qu'il avait bien tout le pouvoir de Dieu, il dit à l'homme,
lève-toi et marche. Et l'homme se leva aussitôt. Et prenant son grabat, il sortit devant tout le monde.
Eh bien moi, je trouve ça normal, puisqu'il peut tout faire. Il peut guérir nos âmes. Aussi bien qu'il guérissait les corps. Après tout, c'est pas tellement plus étonnant.
Tu dis cela parce que nous acceptons ce mystère que Jésus soit à la fois un homme et Dieu. Mais imagine les scribes et les anciens. C'était tout de même bien difficile à accepter. Et comme en plus Jésus les grondait souvent, le plus simple pour eux était de le traiter de menteur et de chercher à le faire disparaître.
Il n'avait qu'à se cacher.
Il ne se cachait jamais longtemps. Il avait tant à faire encore. Mais vous voyez, à la fin de sa vie, Jésus a été un homme très discuté, comme on dit. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laissait personne indifférent. Ou bien les gens le détestaient et voulaient le faire mourir, ou bien ils l'aimaient tellement qu'ils voulaient en faire leur roi.
Sancto, Sancto, Domino, Deo Sabaoth. Plenis sanctuary et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples. Allez au village qui est en face, et en y pénétrant, vous y trouverez à l'attache un ânon que personne au monde n'a jamais monté. Amenez-le après l'avoir détaché. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?», vous direz ceci, « C'est le Seigneur qui en a besoin. » Ils trouvèrent les choses selon ce qu'il leur avait dit. Ils l'amenèrent donc, et jetant leur manteau sur l'ânon, ils y firent monter Jésus. Une foule très nombreuse étendit des manteaux sur son passage. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient le chemin. Tous ces gens qui marchaient devant et derrière criaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. »
J'ai déjà entendu cette histoire-là. On la lit au rameau.
C'est le jour où tout le monde porte des petites branches de buis, et après la messe, on les accroche près de la croix de Jésus.
Mais tu vois bien que les gens l'aimaient. Les pharisiens ont perdu.
Ils ont perdu la première bataille, mais pas la guerre qu'ils livrent à Jésus. En fait, cette journée, c'est la dernière joie de Jésus. Vous savez combien Jésus est heureux quand il trouve la foi chez les hommes. Mais il sait aussi comme nous changeons facilement d'avis. Alors il sait que tous ces gens qui l'ont reconnu et loué seront les mêmes qui le maudiront bientôt. C'est pour cela que les rameaux, en réalité, marquent le début de la Semaine Sainte.
Pourquoi l'appelle-t-on comme ça cette semaine?
Parce que c'est la semaine de l'amour de Jésus.
Oui, mais cette toute petite semaine qui lui reste, il va l'employer à redire à ses apôtres et à tous ceux qui le suivent encore tout ce qui lui paraît le plus important. Et vous, dites-moi ce que vous avez retenu de plus important. Et je vous dirai si Jésus en a parlé pendant la Semaine Sainte.
D'abord, il faut s'aimer.
Oui.
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Et il redit encore que c'est sur notre amour que Dieu nous jugera.
Parlant du jour où Dieu nous jugera, Jésus racontait « Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité. J'ai été en prison et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire ?» Le roi leur répondra, « Vraiment, je vous le dis, autant de fois que vous l'avez fait au moindre de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Et Jésus, a-t-il reparlé des hypocrites?
Oh oui. Il disait toujours, ce qui compte, c'est ce que nous avons dans le cœur, que l'important, c'était la qualité et non pas la quantité, et que tout l'étalage que nous ferions de nos bonnes actions les gâchait et nous condamnait.
L'orgueil non plus, il ne l'aimait pas.
Non. Mais au lieu de nous parler de l'orgueil, il nous a expliqué ce qu'était le contraire de l'orgueil, l'humilité. Justement, cela se passait le jeudi saint, alors qu'ils allaient se mettre à table. Avant le repas, on se lavait les mains et les pieds. C'est qu'en ce temps-là, on mangeait non pas assis comme nous, mais allongés sur des divans.
Comme les Romains.
Oui, comme les Romains à la même époque. Alors bien sûr, on voulait avoir les pieds tout propres, mais comme on marchait généralement nu-pieds, ils étaient si sales de la poussière des chemins qu'on préférait laisser aux serviteurs ce travail désagréable.
Or, ce jour-là, Jésus, ayant versé de l'eau dans un bassin, se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge.
Vous imaginez l'étonnement des apôtres? Même Pierre ne voulait pas.
Ils étaient gênés?
Oui. Mais Jésus reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit.
C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui, vraiment, je vous l'affirme. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail déshonorant?
Oui, mais aussi que même si nous devons commander, nous devons le faire pour servir les autres. Ouvriers ou grands personnages, petits ou grands, pauvres ou riches, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Et tous, nous devons servir comme Jésus l'a fait.
Jésus, il nous avait aussi recommandé de prier?
Tu as raison. Aussi a-t-il rappelé l'importance de la prière.
Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, quoi que vous demandiez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez.
Jésus nous a même donné l'exemple car il a prié lui aussi. Dieu, son Père.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Thank you.